Voici le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Départementales et régionales, élections demain en France. Deux scrutins. Leur manque d'emploi avec Simon Le Baron. Bingo pour les douaniers du Nord. Saisie de 50 kilos de billets de banque. Il y en avait tellement que les fonctionnaires ont mis 12 heures pour compter le magot de près d'un million d'euros. 500 chevaux sous le capot et rechargeables en seulement 3 minutes dans le cadre du salon Vivatech qui se termine aujourd'hui. Présentation d'une voiture 100% hydrogène. On l'appelle déjà la Tesla à la française. Un siècle et demi après l'abolition de l'esclavage, le 19 juin devient aux États-Unis un jour férié pour se souvenir de cette page de l'histoire.
Et puis les invités de cette matinale à 8h moins 10 dans 20 minutes, Patricia Martin, qui recevrez-vous?
La journaliste Laure Gasparotto, spécialiste du vin devenue un temps vigneronne. Elle raconte son expérience dans un livre paru chez Grasset.
Et puis à partir de 8h20, question ce matin à Marie Pelletier. Elle est historienne chercheuse, spécialiste du complotisme. Son livre « L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée » vient d'être réédité par les éditions Les Petits Matins dans une édition augmentée.
France Inter. Élection plurielle demain dimanche, on vote pour les régionales dans les 13 régions de l'Hexagone ainsi qu'en Guadeloupe et à La Réunion. On vote également pour les départementales. 96 départements sauf en Martinique, en Guyane, en Corse où les électeurs votent pour une collectivité unique ainsi qu'à Paris et dans la métropole de Lyon. Régionale, départementale, pas forcément facile de se souvenir des règles, d'autant plus Simon Le Baron qu'elles varient selon les scrutins.
Un point commun entre ces élections, elles sont paritaires. Pour les régionales d'abord, chaque liste doit compter autant de femmes que d'hommes. Si l'une de ces listes obtient 50% des voix ou plus dès ce dimanche soir, ce qui a peu de chances d'arriver, il n'y a pas de second tour. Sinon, il faut au moins 10% des voix pour se qualifier en deuxième semaine. C'est en général le début des fusions et des alliances auxquelles peuvent participer même les listes non qualifiées, mais seulement celles qui ont fait plus de 5%. À l'arrivée, le vainqueur obtient automatiquement un quart des sièges au conseil régional, c'est la prime majoritaire, le reste étant réparti à la proportionnelle. Pour les départementales, c'est un binôme homme-femme qui est en lice dans chaque canton. Il est élu dès le premier tour s'il obtient la majorité absolue et au moins un quart des électeurs inscrits. Quasi impossible vu la faible participation attendue. En cas de second tour, ce sont les binômes au-dessus des 12,5% d'électeurs inscrits ou à défaut les deux arrivés en tête qui s'affrontent. Un binôme par canton entre au conseil départemental.
Simon Le Baron, des affrontements entre fêtards et gendarmes sont en cours depuis hier soir à Redon, en Ille-et-Vilaine. Les gendarmes veulent empêcher une fête sauvage de s'installer sur l'hippodrome. Au moins 6 blessés, un homme a eu une main arrachée, 5 blessés parmi les gendarmes. Cédric Jubilard, mis en examen pour le meurtre de son épouse. Il a été placé hier soir en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir tué Delphine, sa femme, dans la soirée du 15 au 16 décembre dernier, dans leur maison de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Dans cette affaire, les investigations sont encore loin d'être terminées. Le corps de Delphine Jubilard n'a toujours pas été retrouvé et Cédric Jubilard continue à clamer son innocence.
Le jackpot pour les douaniers de Saint-Hébert, c'est près de Valenciennes.
Lors d'un contrôle aléatoire d'un véhicule à la frontière avec la Belgique sur l'autoroute A2, ils ont découvert plus de 50 kilos de billets de banque, de l'argent liquide conditionné comme le font souvent les trafiquants de stupéfiants, dans des sachets en plastique thermosoudés répartis dans 3 sacs de sport. Et Sophie Morland, 50 kilos de billets, eh bien ça fait beaucoup d'argent.
C'est d'ailleurs la saisie la plus importante réalisée cette année en France. Imaginez, les douaniers ont commencé à compter les billets vers midi ce jour-là. Ils ont fini près de 12 heures plus tard à 1 heure du matin. Résultat, l'équivalent de 973 136 euros. Une grande partie en livres sterling et parfois en très petites coupures. Il y avait même des billets de 5 euros. Le tout soigneusement rangé dans le coffre de cette voiture immatriculée en Allemagne. Le chauffeur a déclaré venir de Boulogne et se rendre au Luxembourg. Il est en détention provisoire. Une information judiciaire est ouverte pour blanchiment douanier, blanchiment de droit commun en bande organisée et association de malfaiteurs. Les douaniers qui parlent d'une affaire exceptionnelle avec le stockage de tous ces billets de valeurs différentes ont travaillé avec l'aide d'Europol, l'agence européenne de police criminelle. Le dossier est désormais entre les mains du service d'enquête judiciaire des finances de Lille. Créé il y a 2 ans, il réunit des douaniers et des agents des finances publiques. C'est une unité spécialisée dans les fraudes fiscales et douanières.
Sophie Morlan. L'opium machina peut-elle devenir une Tesla à la française? La berline à hydrogène de 500 chevaux a été présentée au salon Vivatech. Elle ne sera commercialisée qu'en 2025, mais elle est déjà disponible à la commande. Alors difficile de ne pas faire le parallèle avec Tesla. Comme le constructeur américain à ses débuts, Opium est une start-up qui a pour but de révolutionner l'automobile. Maxime Debs.
De l'entreprise américaine, elle emprunte tous les codes. Le designer Félix Godard a d'ailleurs travaillé chez Tesla avant de se lancer sur la piste Opium avec un ancien pilote aux 24 heures du Mans, Olivier Lombard, 30 ans, fier forcément de présenter son prototype.
Ce véhicule, on l'a voulu vraiment représentatif de ce que sera l'automobile de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une technologie hydrogène qui est entièrement propre parce que ça rejette de la vapeur d'eau.
De la vapeur d'eau pour le faire avancer sur de longs trajets, 1000 km d'autonomie promis en pilote automatique pour que vous ayez le temps de tout faire, sauf de conduire.
Regarder des films, écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, on va avoir une expérience de conduite dedans. Les véhicules sont de plus en plus autonomes. Nous, on vise un niveau 4. Et un niveau 4, vous devez être dans le véhicule et vous n'avez plus forcément besoin d'intervenir. Et donc, qu'est-ce que je fais dans mon véhicule si j'ai plus besoin de conduire? Profiter des services qu'il peut y avoir dans la voiture ou travailler.
Faire autre chose que ce qui existe, quelque chose de français en s'inspirant de Tesla, pourquoi pas, on verra. Un point commun avec la société d'Elon Musk, déjà au moins reconnaît le patron d'Opium, être parti de rien. Un millier de précommandes du véhicule ont déjà été effectuées pour une commercialisation en 2025.
Maxime Debs.
Pour le reportage, on part aux États-Unis où le 19 juin aujourd'hui est désormais un jour férié.
Depuis que le Congrès et le président Biden ont décidé qu'il fallait marquer ainsi le jour de l'émancipation des derniers esclaves afro-américains, Juneteenth, comme on l'appelle de l'autre côté de l'Atlantique, est désormais un jour férié fédéral, un geste salué notamment par la communauté afro-américaine. Grégory Phillips.
Sur Black Lives Matter Plaza, rebaptisé ainsi après la mort de George Floyd, le fait que le 19 juin soit désormais un jour férié dans tout le pays prend évidemment une résonance particulière. Moïse habite le Maryland voisin.
Peut-être que ça va aider à rapprocher, you know, everybody, every race and every nation.
Tout le monde, toutes les races, tous les pays.
Exactement, oui.
Parce que Chandra et son époux Perry arrivent du sud des États-Unis, bâton rouge en Louisiane. Ils connaissent bien l'histoire de ce 19 juin 1865 où à Galveston, Texas, un général de l'Union apprend à un groupe d'esclaves qu'ils ont en fait été émancipés 2 ans plus tôt. Et ils veulent partager cette connaissance avec leurs 2 garçons, âgés de 9 et 12 ans. Oui, parce que mes ancêtres étaient esclaves il y a seulement 3 générations. Ma famille est arrivée en Géorgie à l'époque, emmenée depuis l'Afrique de l'Ouest. Alors le père de famille se félicite que ce jour soit désormais commémoré. En faire un jour férié au niveau national est un pas dans la bonne direction. Ce n'est pas encore un dédommagement, ce qui devrait venir d'ailleurs, mais c'est un pas dans la bonne direction. La famille de Louisiane poursuit sa route et remonte Black Lives Matter Plaza vers la Maison Blanche, bâtie à la fin du XVIIIe siècle, notamment par des esclaves africains-américains. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Une grande figure de la peinture contemporaine vient de disparaître à l'âge de 81 ans. Gérard Fromanger était l'un des fondateurs du mouvement de la figuration narrative. Il a été exposé un peu partout dans le monde, Isabelle Pasquier.
Pour Gérard Fromanger, peindre a toujours été un acte politique subversif contre la société de consommation. Aussi humble que chaleureux, il est une grande figure de l'histoire de l'art contemporain. Proche du mouvement de la figuration narrative, il s'impose très jeune dans les années 60 sur la scène artistique. Après avoir étudié à la Grande Chaumière, il est repéré par le sculpteur César, qui lui prête son atelier. Il devient ami d'Alberto et Diego Giacometti, Prévert, Gilles Deleuze, Michel Foucault. En mai 68, il est l'un des fondateurs de l'atelier populaire des Beaux-Arts, qui produit les affiches et slogans du mouvement. Et il tourne des films tracts avec Jean-Luc Godard. Gérard Fromanger s'inspire de la rue pour peindre des foules, des silhouettes anonymes très colorées, très pop, qui avancent et qui sont comme des hymnes à la liberté. En 2015, il se voit refuser un projet de vitraux dans l'église romane d'Anzy-le-Duc. L'évêque n'appréciait pas le sens de son œuvre, évoquait le mystère de l'existence et rappelait que les hommes ont inventé les dieux.
Isabelle Pasquier, sous la chaleur et devant 60 000 spectateurs, les Bleus vont jouer cet après-midi leur deuxième match de l'Euro face à la Hongrie à Budapest. Après leur victoire en Allemagne mardi, en cas de victoire, les champions du monde seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Et puis c'était un derby très attendu dans l'Euro de foot, match nul 0-0 entre l'Angleterre et l'Écosse. Hier soir, un mot de rugby, le Stade Rochelet, premier qualifié pour la finale du top 14. Hier à Lille, il a dominé le Racing 19-6. La Rochelle connaîtra ce soir son adversaire, Bordeaux-Bègles, au Toulouse.
C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Ah, ce sera difficile d'échapper aux orages aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
Exactement, Eric. Donc des orages sur la plupart des régions. Seuls l'Hérault, PACA, la Corse et l'Ouest, la pointe ouest, seront vraiment épargnés. Ailleurs, tous les ingrédients sont réunis pour donner à partir du milieu de l'après-midi des phénomènes violents avec de la grêle, des rafales et de fortes précipitations. Pour l'heure, les phénomènes les plus forts sont prévus en fin d'après-midi, soirée, entre le nord de la Seine, le centre et la basse Normandie, soit 27 département en vigilance orange, mais le risque orageux sera présent partout sur un axe sud-ouest frontière belge, gagnant même progressivement la nuit prochaine vers l'Auvergne, la Suisse et l'Allemagne. Notez que le Rhône reste en vigilance orange canicule, il va d'ailleurs faire chaud cet après-midi sur les régions de l'Est, 34 prévus à Lyon et Strasbourg, 36 sur l'Isère, 37 sur le sud de la Corse, contre facilement 10 à 15 degrés de moins à l'ouest après le passage des orages.
Jean-Michel Golinski, Météo France.